Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
ربي, dit-il, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Et Harun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Il dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner à vous deux des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes, nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Puis, quand Moussa vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent, ce n'est là que de la magie inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Sourat Al-Qasas, ayah 33 à 36. Assalamu alaikum, très content de te retrouver pour un nouvel épisode de Raconte-moi Al-Qasas. Et là, nous arrivons à la ayah 33, où c'est la suite de la conversation entre Allah subhanahu wa ta'ala et Moussa. Donc on avait vu dans le précédent épisode que Moussa alayhi salam était parti pour chercher quelque chose pour sa famille, hein, soit une information, des nouvelles ou bien du feu. Et en fait, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, il discute avec Allah, il entend Allah subhanahu wa ta'ala lui parler et il apprend dans la même séance qu'il va devoir retourner voir Pharaon, qu'il va devoir partir avec des signes, il apprend qui est Allah, il apprend le rôle d'Allah, il réapprend au niveau du tawhid, il apprend tout ça en fait, Moussa alayhi salam. Et donc, c'était le moment pour lui de répondre après tout ça en fait, vraiment tout ce... Il a beaucoup d'informations en même temps, et donc la première chose qu'il dit, c'est Rabbi, donc il admet, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Rabbi, j'ai tué un des leurs, et je crains, j'ai peur en fait qu'il me tue en retour. Donc Moussa alayhi salam, faut savoir que tu le sais, il est parti d'Égypte, il a quitté l'Égypte à cause de cette peur-là, à cause de la peur d'être tué. On l'a prévenu, les notables se concertent à ton sujet pour te tuer. Donc c'était clair et net. Si tu restes, tu vas mourir parce qu'on va te tuer. La sentence, en fait, elle est en cours. Donc Moussa alayhi salam, c'est la raison pour laquelle il quitte l'Égypte. Donc naturellement, quand il entend parler du fait de devoir retourner en Égypte, et en plus, c'est pas seulement retourner en Égypte, c'est faire face à Pharaon. Donc, lui, il comptait déjà repartir en Égypte, sûrement rendre visite à sa famille, mais vraiment discrètement, peut-être en se cachant ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'il sait faire, partir discrètement quelque part. Sauf qu'en fait, là, il lui dit pas seulement de retourner en Égypte, il mentionne même pas Égypte. Il lui demande de faire face à Pharaon, c'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans le pays, il faut que tu rentres dans le palais, il faut que tu rentres dans la cour, parce que rentrer dans le palais, ça suffit pas, il faut que tu rentres dans la cour, il faut que tu sois vraiment là où Pharaon il est, dans sa cour à l'intérieur. Moussa alayhi salam, il fait vite le calcul. Comment est-ce que c'est possible? Déjà, si je passe par la ville et que je décline mon identité, dès l'entrée même de la ville, les portiques vont sonner pour dire l'arrêt de mort en fait va se réactionner. Alors, en plus, je dois aller dans le palais de Pharaon. Et regarde comment c'est impressionnant. Il fut un temps où Moussa alayhi salam, il allait circuler là-bas tranquillement. C'est là-bas qu'il a grandi. Quand le panier est arrivé là-bas la première fois, depuis, après, il ne l'a plus quitté. Et là, subhanallah, ça devient une épreuve pour Moussa alayhi salam d'imaginer même de repartir là-bas. Il se dit, c'est fini, je ne pourrai plus jamais retourner là-bas. Et regarde, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre de retourner là-bas. C'est comme si indirectement, il lui disait, quelle était la probabilité déjà, quand tu étais nouveau-né, bébé au berceau déjà, que tu atterrisses dans le palais de Pharaon? C'est par mes miracles en fait, c'est par ma puissance, c'est par moi en fait, par ma force en fait, que ton couffin est arrivé là-bas et que tu n'as pas été tué. En plus, tu as été aimé, tu as été éduqué dans ce palais. Eh bien, celui qui a pu t'amener là-bas alors que tu étais bébé, tu n'étais pas capable de te défendre toi-même, pas capable de parler. Ta mère ne pouvait rien pour toi, personne ne pouvait rien pour toi. Celui qui a été capable de t'amener là-bas, est-ce que tu penses qu'il ne sera pas capable de t'amener maintenant? Alors que maintenant tu pars avec nos signes, tu pars, là on va le voir un peu plus tard, tu pars avec ton frère que je vais fortifier et faire de lui ton bras droit, qui est un prophète aussi comme toi. Et tu connais aussi le pays, tu pars pas dans un endroit étranger, tu connais le pays, tu connais les codes, tu sais comment accéder au palais, tu connais, et sûrement il connaît aussi les gardes, il connaît beaucoup de choses, il est très intelligent. Donc si tu me fais confiance, avec tout ce que tu connais aussi, avec tout ce que tu as déjà comme expérience, comme bagage, tout ce que tu as appris en tant que berger, tout ce que tu as appris à Madiane, la tranquillité, la paix que tu as gagnée, la force que tu as récupérée, c'est avec tout ça que tu vas partir. Tout ça, en fait, ta vie est un miracle déjà, Moussa alayhi salam. Quand Allah dit qu'il part avec nos signes, nos miracles, eh bien, il y a ces miracles-là, comme le bâton qui se transforme en serpent, comme la main qui devient blanche. Il y a aussi, tout simplement, Moussa, lui tout seul, déjà, c'est un miracle. C'est un miraculé, déjà. Juste lui, c'est un miracle. Donc, il n'a vraiment pas de quoi s'inquiéter, en réalité. Mais Moussa, alayhi salam, il a toujours cette peur. Et regarde aussi comment Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans ce passage ou dans tous les autres passages, où en fait Moussa alayhi salam exprime cette peur-là. J'ai tué quelqu'un, j'ai peur qu'on me traite de menteur. J'ai tué quelqu'un, j'ai peur qu'on me tue. C'est toujours ces deux peurs-là qu'il évoque. Eh bien, si tu remarques bien, Allah, quand il lui répond pour le soulager de sa peur, il va lui donner des outils en lui disant « je vais envoyer ton frère avec toi, tu auras des signes », mais il ne mentionne pas ce que Moussa alayhi salam mentionne comme peur. Il ne n'évoque pas en fait le fait qu'il ait tué quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, il l'a déjà évoqué dans un autre passage en lui citant en fait tous les miracles. En fait, il dit quand ta sœur a suivi le couffin, quand ta mère t'a mis dans ce couffin, quand tu as atterri dans le palais, puis quand tu as grandi, puis tu es quelqu'un, puis tu es parti là. Puis c'est une succession en fait de choses. Ça, c'est pas dans le cadre d'une discussion, mais dans une discussion entre lui et Moussa alayhi salam. Il y en a eu plusieurs qui sont relatés dans le Coran qui parlent de ce passage-là dans différentes sourates. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui répond en lui disant il ne mentionne même pas « tu as tué quelqu'un, mais je t'ai pardonné », il n'en parle pas. Et si tu regardes bien, Allah, il a dit « faghfara lahu ». Il a demandé pardon à Allah. Allah lui a pardonné. « Faghfara lahu ». Ghafara, c'est un beau repentir, c'est un beau pardon. Et dans la notion de pardonner, quand on dit « ghafara », il y a le fait aussi de protéger. Donc en fait, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui enseigne encore quelque chose ici, et il nous l'enseigne par la même occasion. Quand, en fait, on a demandé pardon à Allah pour quelque chose et qu'Allah nous a pardonné, et qu'en plus on a promis de ne plus retourner dessus, il y a le regret, d'accord, je t'invite à revoir ça au niveau de la jurisprudence, les conditions, en fait, du repentir, et il y en a plein, hein, donc le fait d'avoir la ferme conviction de ne pas revenir dessus, le fait de regretter, le fait de demander pardon, réparer, etc. Il y a des choses claires à faire par rapport à ça. Et bien, une fois que tout ça s'est réglé, et en plus Moussa alayhi salam, il a la confirmation d'Allah qu'il a été pardonné, et bien pour Allah, c'est affaire classée en fait. Quand l'affaire elle est classée par Allah, pour Allah de son côté c'est classé, et bien nous on classe aussi en fait. C'est ça qu'il faut apprendre. Allah, par sa réponse, par sa manière de répondre à Moussa alayhi salam, il lui montre que ta peur est légitime. C'est tout à fait normal, en fait, d'avoir peur. Ça remplit, finalement, les conditions du pardon. Regretter un geste, même si on a été pardonné, c'est normal, c'est humain, en fait. Je pense que n'importe qui, quand il a commis quelque chose de grave, on aura beau lui pardonner, on aura beau faire ensuite comme si de rien n'était, on aura beau, voilà, il aura beau, en fait, s'être racheté de plein de manières, ça va toujours le hanter, en fait. Après, faut choisir. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qu'Allah est en train d'enseigner à Moussa alayhi salam ici, c'est que ça ne doit pas te tétaniser. Ça ne doit pas t'empêcher de prendre des actions. Ça ne doit pas t'empêcher d'agir, en fait, et finalement d'embrasser ton destin et de faire ce pourquoi je t'ai programmé dès le départ. Si je t'ai sauvé dès le départ d'être égorgé à la naissance, c'était pour ce moment-là, en fait. Donc ce n'est pas le moment, en fait, de te laisser consumer par quelque chose qui devait arriver fatalement. Et c'est une erreur. Mais ce n'était pas quelque chose que tu as fait sciemment. Ce n'est pas comme si tu te dis « je vais aller tuer cette personne ». Donc Allah a classé l'affaire. Il demande et il montre à Moussa alayhi salam qu'il faut classer l'affaire. Et nous-mêmes, par la même occasion, il nous enseigne qu'il faut classer cette affaire. Et par la même occasion, dans les faits de notre vie, etc., eh bien, quand le pardon a été fait, quand on a respecté les conditions du pardon, on ressent dans notre cœur une certaine sakina qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, en tout cas, a entendu notre pardon. Et si toutes les conditions du pardon sont respectées, il n'y a aucune raison qu'Allah ne nous pardonne pas, eh bien, il faut aller de l'avant. D'accord ? C'est très important, en fait. Moussa alayhi salam, il comprend par cette occasion-là qu'auprès d'Allah, ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur qu'il a perdu son estime auprès d'Allah. Et il faut vraiment apprendre à avancer dans sa vie et à passer à autre chose. Et donc dans la ayah 34, Moussa alayhi salam continue. Donc il continue son argumentaire, vraiment il discute. Et là il dit « Et Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme soutien, donc comme auxiliaire, pour déclarer ma véracité, parce que je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. » Donc dans le premier passage, il dit « J'ai peur qu'on me tue parce que j'ai tué quelqu'un. » Donc ça c'est une peur qu'il exprime. Donc ça Allah lui aura répondu par rapport à ça. Et ensuite, il parle encore d'une autre peur. Comme je n'ai pas autant d'éloquence que mon frère, en tout cas, j'ai peur qu'on me traite de menteur. Là aussi, ce passage, il est très intéressant. Déjà, c'est la première fois qu'il mentionne Haroun ici. J'aime bien dire quand il y a quelque chose qui apparaît pour la première fois. Dans cette sourate, en tout cas, dans ce récit, c'est la première fois que Haroun est mentionné. Il n'était pas mentionné quand Moussa était bébé, il n'était pas mentionné, sa sœur a été mentionnée, etc. Mais là, Haroun apparaît, en tout cas dans le discours, à ce moment-là. Il n'est pas présent dans la scène, mais c'est à ce moment-là qu'en tout cas, on apprend son existence dans cette sourate. Et donc, Moussa alayhi salam dit que son frère est plus éloquent. Et ça aussi, je trouve ça très beau, parce que en fait, il n'a pas de gêne à dire que quelqu'un fait mieux que lui. Et de la même façon, non seulement il dit qu'il est plus éloquent, il parle aussi de lui. Il admet, en fait, il est très honnête avec lui-même, il se connaît bien. Je n'ai pas autant d'éloquence que lui, et lui a beaucoup plus d'éloquence que moi. Envoie-le. Dans un autre passage, Moussa alayhi salam, dans le Coran, il demande carrément à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer Haroun à sa place. Et c'est dans Surat Shu'ara, les poètes. Il dit « Fa'arsil ila Haroun ». Donc sa première proposition à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est carrément de le remplacer. Et là, en fait, c'est pour ça que c'est bien d'écouter et de rassembler vraiment tous les passages où Moussa alayhi salam parle, tous les passages en fait de la vie d'un même prophète, en fait, parce qu'en fait, à chaque fois, on a des angles différents. Donc, Surat Qasas va vraiment capturer, c'est comme si ça capturait la fin de sa phrase avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé, il négocie, hein, il est un peu dans la négociation, il a tellement peur, en fait, qu'il n'a pas assez confiance pour y aller. Donc, il dit, envoie Haroun à ma place. Lui, il est sur place, il est plus éloquent, il est plus au fait des choses en ce moment. Moi, ça fait des années que je ne suis pas allée là-bas, en gros. Envoie-le à ma place. Et ensuite, il se reprend. Comme Allah l'a rassuré, il dit « Eh bien, envoie Haroun avec moi, d'accord ? Envoie-le à mes côtés. Il ne faut pas que je sois tout seul. Je ne me sens pas d'y aller tout seul et de parler, parce que déjà j'ai peur qu'on me tue et j'ai peur en fait qu'on me traite de menteur. » Et le terme qu'il emploie pour dire que son frère est plus éloquent que lui, c'est « afsahu ». Ça vient de « fasaha », donc « fasaha », qui est traduit par « l'éloquence » en général. « Fasaha », on dit ça quand quelque chose devient propre après avoir été souillé. D'accord ? Quand on dit « fasah al-laban », c'est-à-dire le lait, avant qu'on lui enlève ses impuretés, enfin après qu'on lui a enlevé plutôt ses impuretés, tous les microbes, etc. et tout, et qu'on ait vraiment bien conditionné le lait, eh bien ce qu'on obtient, c'est du lait qui est voilà, qui est propre après avoir été, on va dire, avoir eu des impuretés. Et donc, quand on dit que quelqu'un a une fasaha comme ça, comme il évoque son frère, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas la parole lourde. C'est quelqu'un qui a une parole claire. En fait, elle est claire et elle est légère parce que justement, elle a été lavée de toute la lourdeur, de toute souillure, de toute ambiguïté, de toute difficulté, on va dire. Et donc, du coup, c'est une parole qui est impactante, forcément. C'est un discours qui est pertinent. C'est quelqu'un qui est expressif, qui est éloquent. Et il y a cette notion aussi de charisme, en fait. Quelqu'un qui est, comme Moussa alayhi salam décrit, Afsah, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas ennuyeux dans son discours. Il parle, on a envie de l'écouter. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est compétent aussi. Parce que quelqu'un, il peut avoir du charisme, mais il n'a pas trop de science, quoi. Et on peut avoir de la science et être ennuyeux. Alors que là, ce qu'il est en train de dire, c'est que non seulement il est pertinent, il est expressif, il est éloquent, mais il est aussi charismatique. Il a beaucoup de charisme dans son discours. Il parle, on a envie de l'écouter. Et c'est aussi un discours qui est simple à comprendre. Quelqu'un qui écoute parler ce qu'il décrit, en tout cas en termes d'éloquence, Moussa alayhi salam, eh bien, on a envie de l'entendre et on comprend ce qu'il dit, surtout, c'est très important. Et donc, tu pourrais te demander pourquoi Moussa alayhi salam parle comme ça ? Parce que nous, jusqu'à présent, quand on l'entend parler, on n'a pas l'impression d'entendre parler quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. On l'a vu, comment il a parlé avec son beau-père. Bon, il a très peu parlé avec... en tout cas, dans cette sourate, il a très peu parlé avec ses femmes à côté du puits, parce qu'il a juste dit « Mahatobukuma », tout simplement, hein, et on n'a pas de conversation vraiment entre lui et son épouse, qui devait être en tout cas son épouse. Après, on l'entend parler quand il dit à sa famille « Attendez-moi, je vais chercher du feu ou des nouvelles et tout ». Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu Moussa alayhi salam ici parler. On voit l'éloquence de Moussa alayhi salam pour le coup. On a limite envie de lui dire « T'es sûr que tu ne te considérais pas éloquent ?» dans ses discours avec Pharaon. Donc là, on a l'impression de voir un Moussa complètement différent. Vraiment, Allah l'a fortifié, l'a rassuré, lui a donné confiance. Et là, on a quelqu'un d'une éloquence. Tu vas te régaler si tu lis surat Shu'ara. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur ça, à Ramadan Naissance, qui s'appelle L'Art du Débat. Je vais te le mettre en dessous. Il faut absolument que tu l'écoutes ou tu le réécoutes. Je pense que je l'avais mis quand j'avais posté des essentiels, quand j'avais mis des épisodes en rediffusion, quand j'étais en pause, on va dire, pause forcée récemment. Eh bien, cet épisode-là, je parle juste du débat entre Pharaon et Moussa alayhi salam qui est dans surat Shu'ara. Et c'est un régal de voir comment Moussa alayhi salam a un répondant. C'est un régal de voir que Pharaon, en fait, est ridicule. Comment ce jeune Moussa alayhi salam, justement, qui était arrivé bébé dans ce palais, revient dans ce palais. Et oh là là, c'est une succession de pépites. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, pour certaines choses, des punchlines. Hein. Mais c'est délicieux à voir. Avec Moussa alayhi salam, dans ce passage, on apprend les règles du débat. On apprend en fait à gagner un débat. Et un vrai débat, hein, pas quelque chose de futile, c'est vraiment c'est hyper intéressant à observer. Et c'est dans Surat Shu'ara si tu veux te faire plaisir. Et donc Moussa alayhi salam, donc on sait qu'il est éloquent, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant en fait ? Moussa alayhi salam, il est lucide. Et ce qu'il dit finalement, c'est logique. C'est quand il dit que Haroun est plus éloquent que lui. Il n'a pas dit qu'il n'est pas éloquent, il a dit « mon frère est plus éloquent ». Et comme c'est une mission très importante, il veut le meilleur pour Banu Israël par rapport à la tâche. Il faut le meilleur dans son domaine. Et c'est Haroun le meilleur. C'est ce qu'il dit à Allah. Et donc, Moussa, il est de Banu Israël. D'accord ? C'est son origine de base. Mais il a été élevé dans un palais avec des Égyptiens, avec Pharaon, vraiment la haute société. Donc tout ce qui est soutenu, etc. Il n'a pas grandi dans, voilà, parmi le monde, en fait, le peuple. D'accord ? Donc déjà, ça fait déjà deux niveaux de langage différents. Ce qui est parlé dans le palais, là où il a été élevé, et ce qui est parlé dans la ville, dans la rue, etc., c'est pas le même niveau. Ensuite, tu le sais aussi, il a passé un certain nombre d'années à Madian, d'accord ? 8, 10 ans, voilà. Donc il a passé quand même un certain moment là-bas. Et donc il a appris un autre langage, parce que là-bas, c'est pas des Égyptiens, c'est les descendants, c'est les ancêtres même des Arabes. D'accord ? Donc du coup... Là, en fait, il a un langage qui est un peu mixé. C'est-à-dire qu'il a de nouvelles expressions. Son langage, il n'est pas aussi frais que quand il était en Égypte, en fait. Entre-temps, en fait, il a peut-être eu voilà, d'autres expressions, il a rajouté d'autres mots, etc. C'est comme quand tu parles en français, tu parles très bien français, tu parles bien ta langue maternelle, et tu as vécu longtemps dans un autre pays, qui est anglophone par exemple, où on parle espagnol. Bien, quand tu reviens, les premiers temps, tu mélanges un peu des fois des mots en français, des mots en espagnol, etc. Comme en fait tu as eu l'habitude tous les jours d'utiliser une certaine langue, eh bien tu perds en dextérité dans les autres langues, même si c'est des langues que tu maîtrisais déjà bien. Donc Moussa al-Salam, il prend ça en compte. C'est comme s'il disait, moi je suis plus à la page en fait. En ce moment, ça fait tellement d'années, je sais pas en Égypte en fait c'est quoi les expressions à la mode. Peut-être que je vais dire quelque chose, ils vont dire, mais ça c'est has-been, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Je vais mélanger des expressions que j'ai apprises ici à Madian, peut-être un peu d'arabe, un peu ça. Donc en fait Moussa al-Salam, il est au fait et il se dit, il est au fait de là où il en est. Et il se dit, celui qui est stable au niveau langage et qui va parler correctement et qui va être compris, c'est Haroun en fait, plus que moi. Et là, on peut comprendre pourquoi il dit ça. C'est logique. Donc on voit que Moussa alayhi salam se connaît bien. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vraiment lui donner Haroun comme soutien. Envoie-le comme soutien pour confirmer ma véracité. C'est-à-dire quand je vais parler, au cas où je parle, et qu'on me traite de menteur parce que j'ai tué quelqu'un, donc je perds en crédibilité auprès d'eux, je me suis éloigné longtemps, j'ai été fugitif, ils sont capables de me dire, bah voilà, t'as des choses à te reprocher, etc. D'ailleurs, dans le débat, comme je te disais, dans Surah Shu'ara, eh bien, tu vas voir les argumentaires de Pharaon. Eh bien, ce qui est bien, c'est que Moussa alayhi salam, dans les discussions qu'il a maintenant avec Allah, il a déjà discuté avec Allah de tout ce qu'il bloquait. Et Allah l'a rassuré par rapport à ça. Du coup, Pharaon va employer exactement les choses que Moussa alayhi salam anticipait et pensait justement qu'il allait lui dire. Se moquer de lui, évoquer le fait qu'il ait tué quelqu'un, évoquer le fait que, ah bah nous, on t'a pas élevé, nous, ici, d'accord ? Donc, Moussa alayhi salam va vraiment faire face à toutes ces choses-là, en fait, de Pharaon. Mais comme c'est comme s'il avait révisé avant, et Allah lui a donné déjà les outils pour répondre à ça, et en plus, il a aussi son frère avec lui. Là, on a un Moussa qui se régale, en fait, dans ses réponses à Pharaon et qui reste vraiment droit, à l'aise, stoïque, tranquille, en répondant à Pharaon. Et en fait, les origines de ça, l'entraînement, eh bien, c'est la discussion que tu entends maintenant de lui avec Allah, où Moussa, en fait, évoque tous ses blocages. Donc, c'est très important, en fait, de se connaître, d'accepter. Moussa, alayhi salam, il est clair, il est honnête vis-à-vis de ce qu'il est. Il ne nie pas aussi ce qu'il ressent. Il n'a pas peur, en fait, d'exposer à Allah, subhanahu wa ta'ala, ses inquiétudes. Il dit, en fait, ce qu'il a sur le cœur. Là, c'est encore plus fort que s'il était dans une séance avec un psychologue, avec quelqu'un, et le but, c'est d'être franc, c'est d'être honnête et de dire ce qu'on a dans le cœur, en fait, c'est de reformuler les choses, etc. Moussa alayhi salam, il a une séance avec Rabbul Alamin qui est de la plus haute valeur en ce moment même. Et pareil, c'est quelqu'un qui a vraiment de la lucidité et une grande perspicacité et un grand respect aussi pour la valeur des autres. Et c'est le cas de son frère qui est absent et regarde comment il en parle en bien, alors qu'il n'a pas vu depuis des années. Et l'un des salafs salih, donc les pieux prédécesseurs, disait « Personne n'a jamais fait une plus grande faveur à son frère, son propre frère, que Moussa alayhi salam ne l'a fait pour son frère Haroun, que la paix soit sur eux deux, car il a intercédé pour lui jusqu'à ce qu'Allah fasse de lui un prophète avec lui, pour Pharaon et ses chefs. Et Allah a dit à propos de Moussa alayhi salam dans le Coran, il était honorable devant Allah. » Donc c'est vraiment très beau cette parole-là. Ça explique tout à fait en fait le beau comportement que Moussa alayhi salam a eu pour son frère en son absence. Donc quelque part, si Haroun a été un peu nommé et promu prophète à la demande de Moussa alayhi salam, et ça vient de cette scène-là en fait. Donc c'est vraiment très beau. Bon, même si dès le départ Allah, ça faisait partie de ses plans de faire de Haroun un prophète, eh bien il a fait que ce soit Moussa alayhi salam qui initie en fait ce destin de Haroun. Et dans la ayah 35, la suivante, maintenant Allah lui parle, il l'aide, il lui répond. Il lui dit, nous allons, par ton frère, fortifier ton bras. Donc Allah en fait répond à sa demande. Tu as peur en fait d'être seul, de ne pas être compris et de perdre tes moyens et voilà. Eh bien, je vais envoyer Haroun avec toi. Tu as peur en fait qu'on te traite de menteur, tu as peur qu'on te dise que t'as tué quelqu'un, etc. et qu'on te reproche tout ça. Je vais te donner des signes en fait pour que plus personne puisse parler. Et c'est très beau le mot qu'il emploie pour parler du fait que Haroun va être son soutien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parle de de Haroun en disant « Adoudaka ». Ça vient de « Adouda » et qui signifie le bras. Donc le bras, anatomiquement, vraiment le bras, de l'épaule jusqu'au coude, très exactement. Et donc c'est comme si on disait un bras droit, un assistant, etc. D'ailleurs, il y a une doua que le prophète Sassam faisait quand il devait partir, quand il partait à la guerre, se battre, et quand il revenait, il parlait à Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Anta adoudi ». Donc tu es mon bras, quelque part. C'est un peu ça. Il disait d'Allah « Tu es mon bras ». Donc comme pour dire « Tu es mon soutien ». Tu es celui qui assure mes arrières. Et c'est trop beau, et Moussa alayhi salam avait déjà employé ça par le passé. Donc Allah a insufflé quelque part un peu l'idée au prophète sallallahu alayhi salam de remployer la même chose dans ses doigts. Donc Allah a répondu à Moussa alayhi salam, il n'a pas eu à aller seul devant Pharaon. Et il dit qu'il va leur donner à eux deux sultanen. Donc sultan, c'est le pouvoir, c'est le contrôle. C'est aussi des preuves et des évidences claires. Quand on parle de sultan, on parle aussi d'autorité. Donc en gros, c'est comme s'il leur disait, vous serez toujours, toujours dominant devant Pharaon. C'est le miracle que je vous donne en plus. C'est que vous serez toujours, toujours dominant devant lui. Et c'est assez miraculeux parce qu'on parle du tyran sur terre. Comme Allah le définit au début, « Inna Firaouna ala fil ard ». Pharaon était odieux, il était hautain, il était tyran sur terre. Il n'a pas dit en Égypte, il a dit sur terre, pour dire que c'était vraiment le chef dans la tyrannie. Personne ne pouvait être en compétition avec lui sur ce terrain-là. Et donc, c'est un miracle à lui tout seul, le fait que Pharaon, si tu regardes bien, il n'a jamais eu la force ou la capacité de tuer ou même blesser Moussa alayhi salam. Il n'a jamais réussi. Et la vraie peur, c'est pas Moussa alayhi salam en fait qui devait la ressentir, mais c'est Pharaon. Il a eu peur toute sa vie. C'est la peur qui l'a conduit à se mettre à faire égorger des enfants au berceau. C'est la peur aussi de se retrouver sans main d'œuvre qui a fait qu'une année sur deux, il les épargnait. C'est la peur qui le fait parler dans ses débats avec Moussa alayhi salam. Et même cette façon qu'il a d'interpeller ses notables, de demander un peu leur soutien dans son discours, c'est quelqu'un qui a peur. Il n'a pas le discours d'un souverain. Il n'a pas le discours d'un leader. Pharaon, il n'y a aucune de ses répliques qui ressemble à celle d'un vrai leader. Encore moins d'un qawwam, encore moins d'un homme, un vrai quoi. C'est vraiment le discours de quelqu'un qui a peur. Pas seulement quelqu'un qui a peur, d'un peureux et même d'un lâche. Et c'est ce qu'Allah a mis en fait en Moussa et Haroun, en expliquant qu'en fait, ils ne pourront jamais, jamais, jamais vous atteindre. Ils ne vous toucheront pas. Ça, c'est un miracle. Et nos ayats, pour le coup, sont plus puissantes qu'une armée. Moussa, alayhi salam, et Haroun faisaient peur et faisaient vraiment, étaient des adversaires de taille devant Pharaon, au point où celui qui avait l'armée la plus puissante sur Terre, qui était la superpuissance, lui, sur Terre, il était complètement désarmé, pour le coup, devant deux personnes. Et leurs signes. Et ça me fait penser que nous, en fait, nous avons encore plus que ça. Nous avons aussi les ayats d'Allah. Nous avons les signes d'Allah. Et c'est consigné dans ce Qur'an qui est le nôtre, dans notre Qur'an. Nous, on a le Qur'an. C'est le miracle qu'Allah nous a donné. C'est le miracle qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres miracles. C'est un miracle qui est fait de miracles. Le Coran est fait de ayat. Allah ne cesse de dire qu'il a envoyé tel prophète, tel messager, tel envoyé avec des miracles. Et nous avons, et quand il parle de miracles, il parle de ayat. Et nous avons un Coran qui est composé que de ayat. D'accord ? On les appelle les ayat. C'est pour ça que j'aime bien dire ayat et pas verset. Donc, c'est fait que de ayat. Allah ici nous rappelle ça en fait. Cette scène doit nous rappeler ça. Comme les autres scènes où il parle de ayat, que en fait nous avons des ayat, des signes qui sont si puissants. Ces ayats-là contiennent les ayats devant lesquels on est en admiration. Quand on entend la mer fendue en deux, quand on entend Moussa alayhi salam avec les signes, sa main qui devient toute blanche, le serpent qui se transforme en bâton, c'est impressionnant. Mais en fait, on est en train de lire des ayats d'un Coran qui englobe non seulement ça, et plein d'autres choses. Les ayats du Coran sont tellement évidentes pour le coup que toi et moi, si on parle là, si je parle et que tu écoutes, Eh bien, c'est parce que le Coran est un miracle. Tout ce podcast, par exemple, est basé sur le miracle du Coran. Je n'aurais pas de matière à parler s'il n'y avait pas le Coran. Tu n'aurais pas de matière à adorer Allah s'il n'y avait pas le Coran. Beaucoup de choses de ta vie, en fait, si le Coran n'existait pas, il y a beaucoup de choses de ta vie, en fait, qui s'effondreraient, qui n'auraient pas de lieu d'être. Même pour ceux qui ne pratiquent pas bien l'islam, ou qui débutent, ou qui n'ont pas vraiment de notion de la religion, ils pensent, en fait, que le Coran n'est pas présent dans leur vie, mais en fait, il l'est. Et c'est très important, en fait, qu'on se dise que c'est avec le Coran que nous avons ce que nous avons. Et tu te le dois à toi-même, en fait, de voir le Coran comme un miracle. Tu te le dois à toi-même de cultiver une relation de proximité avec le Coran. Ce n'est pas un luxe, c'est un must. C'est une nécessité absolue. Puis la suite, quand Moussa vient à eux, donc vint à eux, avec nos prodiges, nos miracles évidents, ils dirent « Ceci n'est qu'une magie inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de ça chez nos premiers ancêtres. » Donc là, on a une scène qui saute, hein, d'accord ? On a Moussa qui est en train de parler avec Allah. Allah le rassure. Allah lui donne sa mission. Moussa, alayhi salam, partage avec Allah. C'est pas vraiment des objections, mais des blocages. Allah le rassure par rapport à ça et accède à ses demandes. Et donc, on n'a pas la scène où Moussa redescend de cette vallée assez chamboulée. Il revient une autre personne et il doit informer sa femme de ça. Et puis après, il doit retourner et continuer son chemin vers l'Égypte, rencontrer son frère. Là, c'est pas les vacances, hein. Il n'a pas le temps de s'installer et de dire « Oh, ça fait du bien de revenir ici et puis visiter la ville, oh, qu'est-ce qui a changé, etc. » Non, il est là uniquement que pour accéder au palais et accéder à Pharaon. Et du coup, toutes ces scènes s'enchaînent, d'accord, sans qu'on ait le détail ici. Et on a directement sa conversation avec Pharaon. Donc, on saute de lui qui est en train de dire à Allah qu'il a peur d'être tué, qu'il a peur d'être traité de menteur, à Moussa alayhi salam qui est en train de montrer ses signes. Et on a tout de suite, d'ailleurs, c'est pas la parole de Moussa alayhi salam qu'on a en premier, c'est la parole de Pharaon et ses notables qui parlent en même temps en disant mais n'importe quoi, on n'a jamais vu ça chez nos ancêtres et ça c'est juste de la magie inventée. Et ce passage-là, c'est un petit résumé du détail que tu vas avoir dans Sourate Shu'ara. C'est trop bien parce qu'il y a vraiment des sourates qui vont se pencher sur un passage de la vie de Moussa alayhi salam. Si tu veux le après montagne là, après qu'il ait rencontré Allah, eh bien c'est dans Sourate Shu'ara que tu vas avoir vraiment le détail de cette conversation entre Moussa alayhi salam et Pharaon. Et donc Pharaon, il évoque la magie parce que la magie c'est tout ce qu'il connaît en fait. C'est tout ce qu'il connaît. Et donc il évoque ça, mais comme c'est une magie qu'il ne reconnaît pas, et les magiciens non plus, d'ailleurs il y a une scène avec les magiciens, il va appeler les plus grands magiciens et eux-mêmes en fait vont voir que c'est pas de la magie, ils vont finir même par croire, par se prosterner, il va les gronder, mais qui vous a donné l'autorisation de vous prosterner alors que c'est moi, votre robe ? Et là il les a tués, mais d'une manière vraiment, il montre que c'est un tortionnaire, que c'est un barbare quoi, il a dit que au lieu de les tuer directement, il dit je vais couper vos bras, c'est-à-dire je vais couper le bras et la jambe opposée. C'est comme ça qu'il a décidé de les tuer. Et il les menace en fait, il dit je vais faire ça là. Il dit je vais vous faire ça. Et là ils ont dit on n'a pas peur en fait, c'est pas grave. Maintenant qu'on a la vérité, fais ce que tu veux en fait. On a gagné nous. Et il est encore plus en rage. Tout ça se passe au palais et t'as tout le détail avec Sourate Shu'ara, les poètes. Et donc Pharaon admet finalement indirectement que ce n'est pas de la magie parce qu'il dit une magie inventée. C'est une manière biscornue et détournée de dire « Je suis en admiration devant ce qui se passe là, je ne peux pas qualifier ça de magie, mais comme je ne connais que la magie, eh bien je dis que c'est un dérivé de la magie ou c'est une magie inventée. » Donc, il ne lui donne pas de valeur en fait. Il est en train de dénigrer, de rabaisser ce qu'il a devant lui alors qu'en réalité, il l'admire beaucoup. Donc là, il montre vraiment son orgueil. Non seulement il voit les signes, il voit que ceux qui sont sous son commandement, en fait, qui sont des experts de la magie, accèdent aussi aux signes et se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout, en fait, ça fait que montrer encore plus son orgueil. Et là, on va finir par ça. Là, sa phrase là, à Pharaon, jamais on n'a entendu ça chez nos premiers ancêtres. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, il a menti. Franchement, il a menti. Et je fais beaucoup de parallèles avec Surat Yusuf. Donc tu vois tout de suite pourquoi j'ai ri. Là, on a envie de dire à Pharaon, et Youssouf alors ? Tes ancêtres, ils l'ont pas côtoyé par hasard ? Si Moussa alayhi salam, il est là déjà, c'est parce qu'il y a eu Youssouf alayhi salam avant qui a installé sa famille ici. Et lui, il n'était pas au contact en fait avec tes ancêtres en fait. Donc les Égyptiens, à un moment donné de l'histoire, en tout cas, c'est certains ont côtoyé des croyants. Ils ont côtoyé des gens qui appelaient à Allah. Ils ont côtoyé des gens qui appelaient au tawhid. Et en plus, ils ont côtoyé une période où en même temps, ils avaient plusieurs personnes pieuses et prophètes. Ils ont Youssouf alayhi salam, qui était quand même le numéro 2 du pays. Yaqub alayhi salam, son père qui l'a éduqué, qui l'a rejoint. Benyamin, son petit frère aussi, qui était de son côté. Et toute leur famille, en fait. Il y avait tout le monde. Donc il y avait tout un peuple, en fait, qui appelait à l'unicité et tout un peuple qui était les musulmans de l'époque, en fait. Et Youssouf alayhi salam n'a jamais caché sa foi. Quand il était en prison, la première chose qu'il a fait quand il discutait avec ses camarades prisonniers, c'était de faire de la da'wah, de les appeler à l'islam. Et après, il a interprété leurs rêves. Pareil, en fait, il n'a cessé de faire la da'wah dans le pays. Et donc là, ça fait doucement sourire parce qu'on se dit finalement, Moussa alayhi salam, qui craignait d'être traité de menteur, on a presque envie de lui dire, mais sois rassuré, hein, parce que celui qui ment comme il respire, là, il est devant toi. Et d'ailleurs, la preuve que ses ancêtres ont entendu parler du tawhid, et en fait, c'est pas la première fois du tout et que ça apparaît, il peut pas dire jamais dans nos ancêtres on a entendu parler d'un rab, de l'unicité, etc., de signes, de miracles, c'est n'importe quoi. Eh bien, nous, on a envie de lui dire c'est n'importe quoi. Et dans Surat Ghafir, tu as un passage où Allah subhanahu wa ta'ala capture aussi ce moment. C'est toujours cette scène-là où il nous donne un détail qu'on n'a pas dans cette surat-là. Et il dit « وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ » Donc, à un moment donné, il y a un homme dans l'assemblée, devant tout le monde, devant Moussa, alayhi salam, devant Pharaon, devant tous les notables, qui prend la parole. Et Allah dit, dans le sens, il dit que « Et un homme de la famille de Pharaon qui cachait, qui dissimulait sa foi, dit. » Et là, il y a un long discours de cette personne. C'est très intéressant à écouter, c'est vraiment c'est un très beau discours où il fait da'wa en fait. Bon, j'imagine qu'après ça a dû lui coûter la vie, mais il fait un long discours en fait où il soutient Moussa, mais il est en train de faire une da'wa qui est limite beaucoup plus... On a l'impression que c'est comme si c'était lui qui était envoyé, quoi. Et en fait, à la fin de son discours, il dit « Alors que vous est venu Youssouf avec ses signes, et quand il est mort, donc en parlant de Youssouf, alayhi salam, eh bien, vous avez dit que après lui, il n'y aurait pas de prophète. » Donc en fait, j'ai presque envie de dire à Pharaon, dans cette scène-là, est-ce que c'est possible de mentir de cette manière-là, de mentir autant comme ça, avec le plus grand des calmes, de mentir comme on respire de cette manière-là? C'est énorme, son mensonge. Donc, on voit que, on commence à voir, en tout cas, là, on n'a même pas fini de voir le passage de la conversation entre Moussa alayhi salam et Pharaon. On voit en fait que Moussa alayhi salam, vraiment, ses craintes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a vraiment rassuré, il a eu raison de le rassurer parce que là, pour le coup, il a été bien préparé parce que Pharaon n'a rien de tangible en fait à lui présenter et cette scène nous le montre très, très bien. Bien, on arrive à la fin de cet épisode. On va voir, Inch'Allah, la suite demain. Qu'est-ce que va continuer de dire Moussa alayhi salam? Qu'est-ce que va dire Pharaon? Comment est-ce qu'ils vont finir? Parce que les scènes vont se passer assez vite, en tout cas ici, parce que comme Allah détaille ça plus loin et dans d'autres sourates du Coran, le discours détaillé entre Moussa et alayhi salam et Pharaon, eh bien, on va voir au prochain épisode ce qu'il en a, Inch'Allah. Salam alaikum.